Et dans 1 Pierre 2, verset 9, où il est dit que vous, par contre, donc par contre, voilà, ce qu'il a dit précédemment, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ce passage, comme tous les apôtres, les 12 apôtres, 12 c'est la totalité, c'était l'ouverture aux nations. C'était pas Israël. Israël est revenu dans le champ de l'histoire en 1948, quand Dieu termine le temps des nations pour le réouvrir en finale avant le retour du Seigneur. Donc on est dans l'histoire. Je vous rappelais que si on ne connaît pas son identité, et que c'est vrai sur un plan personnel, on est déstabilisé quand on est avec les autres, avec son conjoint déjà. Si on ne connaît pas son identité avec le conjoint, c'est difficile dans le couple. C'est difficile dans un petit groupe, c'est difficile dans une nation. Vous savez que le gros débat, c'est question de l'identité. Avec Sarkozy, ça fait des étincelles et c'est pas réglé, parce que c'est quoi l'identité? Mais pour nous, occupons-nous de nous-mêmes. Est-ce que nous, on connaît notre identité? C'est ça la question. Est-ce que nous, on connaît l'identité en tant qu'Église? Et ça, c'est mon rôle, de vous l'apprendre. Et donc j'ai mis 20 ans, depuis 98, à réfléchir à ça, parce qu'avant j'acceptais ce qu'on me donnait, et là j'ai dit non, il faut vraiment qu'on connaisse notre identité. Et l'identité de l'Église, c'est que l'Église est une et indivisible. Okay ? On peut le dire à son voisin, une et indivisible. Mais en même temps, elle est trois. Vous voyez ? Elle est trois. Donc c'est trois fondements, et il faut connaître ces fondements. Parce que c'est notre identité. La Trinité est une et indivisible, et pourtant elle est trois. Elle est quoi? Elle est Père, Saint-Esprit. C'est pour ça que quand vous êtes baptisé, on vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu, le Dieu de la Bible. Et quand on s'éloigne un tant soit peu de la doctrine de base de notre identité, on est à la dérive. On est à la dérive. On ne sait pas où ça s'arrête, cette dérive. Des fois, le Seigneur peut nous ramener, mais on est à la dérive. Donc, notre identité et moi, mon rôle, quand je passerai devant le jugement de Dieu, je sais que je l'y passerai, il va me demander des comptes. Qu'est-ce que tu as appris à l'église d'Aubergenville? Donc, moi, je veux... Le premier des choses, c'est que vous connaissiez votre identité. Après que vous en fassiez ce que vous voulez, c'est votre problème. Mais moi, je me décharge sur la responsabilité. Donc, là, il y a trois fondements de l'Église. Ça, c'est l'identité. Ça veut dire quoi, H? Quelqu'un s'en rappelle? Hieros. Alors, vous l'avez dans le sacerdoce royal. Le sacerdoce, en grec, c'est... où est-ce que je l'ai dit? Parce que vous savez, moi, je veux le grec. Je le connais parce que je le lis, mais c'est hierotema. Hierotema, le sacerdoce. Donc c'est hieros, c'est le sacré. Enfin, le latin, parce que le français vient du grec et du latin. Donc dans le latin, c'est sacré. Et dans le grec, c'est hieros. Mais dans la Bible, c'est marqué hieros, puisque la Bible est écrite en grec. Donc je mets le H ici pour la fonction du sacré. Notre identité est d'abord le sacré. Sacré, ça veut dire mis à part. Sacré, ça veut dire qu'on a une identité sacrée, un fondement sacré. Tu peux le dire à ton voisin. Tu as un fondement sacré. Sacré, ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Okay ? Et là, on retrouve la constitution. Chaque groupe a une constitution, est constitué. Et Jésus a constitué l'Église. Il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est les trois fondements de l'Église. Tu es Pierre, Pétros, Pierre, et Petra, Christ. Donc c'est pas la même chose. Pétro, Pétras, c'est pas Pierre et Pierre. Vous voyez, là on est dans la confusion. Donc en grec c'est Pétros et Petra. Donc tu es Pétros, et sur cette Petra, je bâtirai mon ecclésia. Voilà. Donc un des fondements inaltérables de notre identité, c'est d'être sacré, c'est d'être sur le pétra. Le pétra, c'est le rocher, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ et son épouse, mais ils sont indissociables, puisque Jésus est son épouse, et il l'a acquis pour sa gloire. Donc nous sommes son épouse. Dis à ton voisin, tu es l'épouse. Tu es l'épouse. Oui. Nous sommes l'épouse. Et l'épouse attend l'époux. Donc nous sommes en attente du retour de Jésus, de l'époux. Donc dans cette... Sinon, nous ne sommes pas chrétiens, si vous voulez. Enfin, nés de nouveau. Hein. Nous sommes chrétiens religieux. Hein. Mais on ne veut pas être ici religieux. Vous voulez être religieux ? Sinon, ce n'est pas votre place. Enfin, je ne vous souhaite pas de rester, parce que vous allez être un petit peu déçus. Nous, on veut être en communion avec le Seigneur dans une relation de la, dans la nouvelle naissance, c'est-à-dire par l'Esprit. Okay ? Donc, nous sommes dans le sacré, dans la dimension du sacré. Je le dis juste au passage, ici, c'est la dimension du gouvernement, de l'Église, donc c'est Pétros, hein, et les douze, c'est le... la dimension du gouvernement, de l'administration, si vous voulez. Donc ça, c'est une autre responsabilité. Et ça, c'est la dimension du socius, du social, de la communion des frères et sœurs. C'est une dimension citoyenne, si vous voulez, de prendre soin de ce que Dieu nous a donné, du bien commun de l'Église, ici, qui bénéficie d'un bien commun. Okay ? Voilà. Donc je ne parle pas de cela, pour l'instant, je parle de celui-là, parce qu'il est fondamental. Et dans ce fondement, qu'est-ce qui nous est demandé de faire ? Dans le mouvement du sacré. Je vais le relire, comme ça, parce que je voudrais que vous le trouviez de vous-même. Hein. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans le sacerdoce royal, dans ce service du sacré, qu'est-ce qu'on doit faire ? Non ? Pas dans ce service-là. Dans l'autre, oui. Oui, mais dans l'autre, oui. Mais pas. Non. La première des choses, c'est d'apporter des sacrifices. Sacerdoce et sacrifice. Dans l'Ancien Testament, Les Juifs devaient apporter des sacrifices. Et dans le Nouveau Testament aussi. Et dans Apocalypse, vous voyez que les sacrifices qui montent vers Dieu, c'est les parfums agréables dans Dieu. Et dans la maison des prières, ce qu'on aura, c'est les sacrifices. Les sacrifices de bonne odeur. C'est des paroles qui montent vers lui. Alors, ça peut être louange, ça peut être des paroles, ça peut être des prières, des intercessions, etc. C'est ça, notre vocation de base. C'est d'être des sacrificateurs. Alors c'est pareil, on parle de prêtre, parce que bon, on est dans le grec et le latin, on parle de prêtre, mais le prêtre, vous voyez, c'est connoté catholique. Nous sommes prêtres, nous sommes sacrificateurs. Et dans le sacrificateur, nous sommes tous, quand nous sommes nés de nouveau, supposés intercéder. Parce que l'intercession, c'est apporter des sacrifices avec notre bouche pour prier, intercéder pour les choses. Et vous avez, pour ceux qui étaient là quand j'ai présenté la vidéo de John Paul Jackson, vous avez bien compris que quand il y a une prière, quelle que soit la prière, il y a un combat spirituel. Donc nous participons avec Dieu sur ce qu'il est en train de faire sur la terre. C'est un privilège. Si nous ne prions pas, si nous n'intercédons pas, eh bien il faut effacer ce troisième-là. Et si on efface celui-là, eh bien ici, c'est que des choses sur la terre. On n'est plus dans le ciel. Tout ce qui est céleste, c'est là. Parce que ça, c'est un être en instance, et là, c'est un être en devenir. Nous sommes en devenir. Mais tant que la résurrection des morts n'est pas venue, nous ne sommes pas encore pleinement accomplis dans le plan du dessein de Dieu. Par contre, nous sommes pleinement accomplis dans l'intercession. Hello ? Vous voyez où je veux en venir ? C'est pour ça que je remets une couche, et je complète à remettre une couche, pour que vous compreniez bien que c'est notre identité, et que ce dont je suis responsable dans tout le pasteur, c'est de dire tous, vous êtes appelés à intercéder, à prier, à votre niveau, un petit peu. Alors il y en a qui parlent de petites prières, d'autres de... On ne parle pas de petites prières, de grandes prières dans la Bible, on parle de prier. Okay ? Donc, moi je suis censé vous pousser à prier, à intercéder. Et si vous ne le faites pas, bien sûr, vous priez pour vous, mais vous savez, il ne demande pas juste de prier pour nos besoins. Voilà, on a tous des besoins. et on demande à Dieu, mais de prier pour les autres. De prier pour les autres. D'abord pour nos conjoints, ensuite pour nos enfants, c'est notre premier. Et d'ailleurs, vous voyez que dans cette dimension-là, ceux qui dirigent, quelles sont les caractéristiques de la Bible pour ceux qui dirigent? Quels sont les dirigeants qu'on met pour diriger l'autre fonction qui est de diriger l'Église? De bien tenir sa famille. Donc vous voyez, ça commence par la famille. Si quelqu'un n'est pas capable de diriger sa famille, il ne faut pas le mettre là. Il ne faut jamais le mettre à la direction d'une église. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'on apprenne. Voilà. Donc je requitte cette fonction-là pour revenir là, intercéder. Donc pour vous donner l'occasion d'intercéder, et non pas de vous obliger à intercéder, mais pour vous donner l'occasion, eh bien, et pour que chacun puisse avancer dans l'intercession. Parce que cette église-là, c'est Dieu qui l'a voulu ici. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Enfin, pas vous, ça c'est vous qui décidez d'être là. Mais Dieu a voulu qu'il y ait une église ici, une église hieros, sacrée. Et c'est un privilège d'être là, c'est pas mon église. C'est l'église de Jésus-Christ qui a décidé à Elisabethville qu'il y a une église qui rayonne. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Moi, je n'ai rien dans cette histoire-là. Je ne suis rien dans cette histoire. Si ce n'est qu'un serviteur inutile. Mais si vous êtes là, c'est que Dieu vous permet d'être dans une église qui, premièrement, doit être une intercession. C'est pour ça que Dieu nous a dit, ce sera ici une maison de prière pour toutes les nations. D'ailleurs, Jésus l'a redit dans le temple, etc. Ce sera une maison de prière pour toutes les nations. Donc, c'est un lieu où on va intercéder. Alors, je sais que depuis 20 ans, avec Michel, on a été réhabilité pour conduire cette église. Mais depuis 20 ans, on voit que la prière, on n'arrive pas à la faire lever. On n'arrive pas. On n'arrive pas, c'est un constat. Mais là, 2019, ce sera l'année de l'ouverture, la maison de prière, pour toutes les églises de la région. Si nous ne sommes pas capables de montrer l'exemple, qui est-ce qui le fera? Donc, vous voyez, c'est un enjeu. Et je sais que chaque fois qu'il y a un enjeu, l'ennemi combat. Et il combat quoi? Il amène la confusion, il amène l'incompréhension, il vous met dans la tête des choses qui ne sont pas justes, et tout le monde, on en est là. Tout le monde en est là. Pour mettre le chaos. Ce qu'il veut, c'est le chaos. Parce qu'il ne veut pas la prière. Donc il utilise tous les moyens. Vous serez utilisés par l'ennemi, tous les moyens qui ne vont pas dans ce sens-là, parce que ça, c'est la parole de Dieu. Alors moi, qui suis pasteur, je veux que ce soit à la portée de tout le monde. Et pas qu'on fasse des clercs et des laïcs, qu'on fasse des intercesseurs et d'autres qui regardent. Moi, mon père était, enfin, toute ma famille était catholique. Et au Mont-Saint-Odile, pour ceux qui le connaissent en Alsace, il y a une prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chez les catholiques. Chez les catholiques. Et mon père y allait. Il y allait. Il faisait les veilles de nuit. Il priait toute la nuit. Sauf que il faisait le rosaire, donc je vous salue Marie, voilà, c'est ce qu'ils connaissaient. Vous voyez, si eux, ils sont capables de le faire, nous, on n'est pas capables de prier. Et Jésus a dit, vous n'êtes même pas capables de prier une heure avec moi. Et vous, même les disciples, parce que l'ennemi fait qu'il veut nous endormir. Voilà. Alors donc, mon rôle, c'est de mettre à votre disposition quelque chose de souple. Je ne vais pas vous demander ici de venir ici pour prier, si déjà vous ne priez pas chez vous, donc il faut commencer. Donc ce que je vais faire, c'est, et aujourd'hui on a un outil super, super génial, ça s'appelle Internet, où tout le monde peut se connecter. Donc on va utiliser le moyen Internet pour mettre à votre disposition des sujets d'intercession. Mais la motivation, c'est vous. C'est pas Internet, c'est un moyen. Donc vous, ça dépend de votre motivation, et si vous prenez conscience de votre identité, c'est vous qui devez vous motiver. La responsabilité, c'est qui? C'est vous. Personne d'autre. C'est vous qui intercédez ou qui n'intercédez pas. Donc, votre responsabilité, c'est vous. Les leaders que je représente ici, c'est de vous encourager, de vous coacher à entrer dans cette vocation qui est notre vocation spirituelle. Donc, j'ai mis ici sur la gauche tous les emails que j'ai, mais qui ne sont pas toujours à jour parce que je suis pas du tout bon au secrétariat, il me faut une secrétaire, parce que j'ai jamais été bon dans les mises à jour. Vous savez, le plus dur, c'est les mises à jour. Parce que vous pouvez faire une liste, mais si tous les jours, on ne met pas mise à jour, ça ne marche pas. Mais moi, je suis nul, et ça ne m'intéresse pas, et j'y arrive pas. Donc il faut le savoir, moi je suis créatif, je suis ingénieur au départ, et je veux tout le temps créer des nouvelles choses. Donc je reconnais mes défauts. Donc ce que j'ai, c'est ça, je vous demanderai de les mettre à jour si vous voulez bien, parce que ça vous permettra aussi vous d'avoir toutes les informations, etc. Donc là j'ai mis les emails par ordre alphabétique, donc c'est les emails, hein. Donc vous regardez ici, vous mettez en face les noms, parce que des fois c'est pas lisible savoir qui est en face, certains c'est clair, d'autres non. Vous le mettez là, si vous n'êtes pas dessus, vous le mettez en bas, mais que ça soit mis à jour. Là, il y a une autre liste aussi, parce que si tout le monde se rue là-dessus, il n'y a pas de place, donc c'est les mêmes listes. Et moi, je ferai une synthèse pour que j'ai quelque chose à jour et que je puisse vous envoyer les premiers éléments de cette intercession et des thèmes qu'on va développer pour vous aider à avancer pour cette organisation. Ceux qui veulent faire partie de cette équipe, hein, parce que c'est pas destiné à une personne simplement, c'est des gens qui veulent contribuer à mettre en place la maison de prière, eh bien vous mettez en bas votre désir, ou à gauche, à droite là sur la liste, vous mettez, puis je vous contacterai pour que on puisse établir les règles de cette maison de prière. Voilà. Alors. Dans le fond, j'ai mis autre chose, je ne me rappelle plus, c'est autre chose. Ok, voilà, je voulais juste vous dire ça, avant de laisser la place à Michel, pour vous dire, voilà, on va tout mettre à votre disposition pour que vous puissiez tous participer à l'intercession, mais c'est vous qui répondez. Moi, je mets tout à disposition le plus simplement possible pour que, ensuite, après, vous puissiez avoir, on verra avec l'équipe comment on va mettre ça en place, pour que vous puissiez, avant que la maison existe physiquement, on puisse prier. Parce que c'est pas la maison qui va vous aider à prier. C'est votre motivation qui va vous aider à prier. Puis ensuite, la maison de prière, elle aura d'autres fonctions qui seront d'ouverture aussi et de vision pour les autres églises qui vont nous rejoindre et les autres intercesseurs. Parce que cette fonction-là, elle est universelle. Vous voyez, là, c'est pas l'église locale. L'église locale, elle est là. Ici, c'est l'église universelle. Donc on peut embrasser des choses. Et puis on peut faire un réseau avec la Bretagne, par exemple, justement, puisqu'il existe, un réseau avec des gens qui ont la vision de l'intercession comme nous. Et comme ça, on peut, avec Internet, justement, se connecter sur d'autres intercesseurs qui ont la même vision. Et donc ça prend forme, les choses commencent à prendre forme dans une dimension qui est beaucoup plus grande que celle que nous voulons être en local. Voilà, je vais laisser la place à Michel qui va intervenir.
Bien, on va reprendre ce qu'on a commencé, on n'avait pas tout à fait terminé la semaine dernière. Avant, je voulais juste vous montrer ça parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien lire leur Bible, mais qui disent, voilà, oh là, il y a des tas de choses que je connais pas, c'est pas toujours évident de répondre aux questions, de préparer une étude biblique, comme je vous ai appris à faire, observation, interprétation, application, ce qui s'appelle, au GBU, on appelle ça la méthode OIA. Vous avez un outil qui est vraiment pratique. Ça vous évite d'acheter 30 ou 40 bouquins. Je sais que ça, c'est l'ancienne couverture, il y en a un nouveau maintenant, mais ça s'appelle Nouveau dictionnaire biblique, ils ont sorti, ça c'est une version déjà un petit peu ancienne. Je pense que ce serait bien que vous vous en procuriez un si vous voulez faire des études bibliques. Pourquoi ? Je vous ai dit que quand on observe un texte, souvent le lieu géographique est important. Donc comment est-ce que vous allez trouver ça ? Dans une encyclopédie, sur Internet, oui, bon. Dans un dictionnaire biblique, vous avez tout de suite où le lieu est situé, si c'est une plaine, une montagne. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi? Vous allez voir aujourd'hui, ça sert à quelque chose. Les distances aussi, quand on vous dit Jésus passa de telle ville à telle ville, c'est quelquefois intéressant de se dire, il a marché combien d'heures là? Voilà, des petites choses comme ça, mais qui donnent une vie au texte. Ensuite, il y a les personnages. On vous cite un personnage que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam. et vous vous dites « Wow, jamais vu ce nom-là, qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait ?» Eh ben, c'est pratique de regarder dans un dictionnaire biblique, Abiatar, c'est qui Abiatar ?« Ah, je savais pas, mais c'était un prêtre, il a suivi David. » Et vous avez un peu le résumé de sa vie, et ça vous dit tout de suite « Tilt, ah, mais je comprends pourquoi il est important dans cette histoire-là. » Voilà. Alors, c'est des petits détails comme ça, les lieux, les noms propres, les allusions à certains rites. Et il fit un sacrifice d'expiation. Waouh, c'est quoi ça? Vous aurez ça en dictionnaire biblique. Voilà, ce genre de choses. Et certains rites qu'on a un petit peu oubliés. Le bouc émissaire, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en français. Hein. En fait, ça vient de la Bible. Et vous regardez dans le dictionnaire biblique et vous verrez ce que c'est que le bouc émissaire. Voilà. Différentes petites choses. En plus, il y a des tas de mots qui sont dans la Bible et qui sont passés dans le langage français. Et on ne sait pas du tout que ça vient de la Bible. Non. Sœur Marie-Paul disait toujours qu'en plus, on a osé nommer les bouteilles de champagne avec des noms bibliques. Vous le savez mieux que moi, à ce que je vois. Moi, j'ai découvert, parce que je ne suis pas forcément très branchée champagne, mais voilà. Donc, il y a des tas de mots. On avait fait une petite liste à l'école Notre-Dame. On avait fait une petite liste de tous les mots qui viennent de la Bible et qu'on utilise tous les jours. Eh bien, elle n'était pas petite, en fait, la liste. Il y avait une belle liste. Donc, voilà, utilité d'un dictionnaire biblique. Je n'ai pas d'intérêt dans la chose. Je n'ai pas d'action dans les dictionnaires bibliques. Mais ça peut vraiment vous aider. C'est un truc, vous voyez, celui-là, c'est celui de mes parents. C'est des choses que vous pouvez garder sur plusieurs générations. Et franchement, c'est pratique. Merci. Je te fais un cadeau en échange. Il marche, là ? Voilà, donc je voulais vous dire ça avant de commencer. Alors, on va terminer le texte de la dernière fois. Vous vous souvenez que on avait parlé on en était au point où on parlait du découragement. David est allé se réfugier chez les ennemis du peuple. C'est comme si vous imaginiez, on va dire, le prochain candidat à l'élection présidentielle, qui va aller se réfugier, si on est en guerre avec l'Allemagne, par exemple, ce qui était le cas, il va se réfugier en Allemagne. Vous voyez ce que l'effet que ça aurait fait ? Ça aurait été compliqué, hein ? Donc voilà, le découragement. Et je voulais juste, pour terminer l'étude biblique de la dernière fois, dire quelques mots sur le découragement. On dit toujours, c'est l'arme numéro un de l'ennemi. Et c'est vrai que c'est très efficace. Vous pouvez avoir des chrétiens hyper motivés, hyper compétents, qui connaissent bien leur Bible, qui ont confiance dans le Seigneur. Puis un jour, il y a un coup de découragement, un coup de blues, et pouf, c'est comme un ballon qui va se dégonfler. On en est tous là. Le découragement, ça marche toujours très bien. Pourquoi ? Parce que on se dit « Waouh, j'ai espéré, je pensais que ça changerait, et puis les choses ne changent pas. » Ou bien « Moi, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. » J'arrête tout. J'en ai marre d'attendre. Ça, c'est un truc. Souvent, j'en ai marre d'attendre. J'ai attendu, et puis voilà, les choses n'ont pas changé. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien pour décourager les gens. Et les gens, dans ces cas-là, ils ont deux solutions. Vous avez vu que David a dit : je vais prendre les choses en main. Je prends une décision. Je vais chez les Philistins. Bon. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est vraiment de rechercher Dieu. Et ça, c'est plus compliqué. Alors, vous allez me dire, mais parfois, il faut quand même prendre les choses en main. Alors, j'ai fait un peu une petite liste des choses où, effectivement, Dieu nous demande parfois une participation. Donc, je ne suis pas là pour vous dire, il n'aurait pas dû bouger, se mettre dans un trou et attendre. Dieu avait certainement un autre plan pour lui. Mais il y a des fois où Dieu nous demande une participation. Il demande une action. Je pense toujours à quand il va guérir le paralytique. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bon, il y a quelque chose à faire. Il n'était pas là, attendre qu'un ressort le pousse debout. Dieu demande parfois ça. Malheureusement, David, il a trouvé une mauvaise solution. Mais je veux insister sur le fait que notre vie avec Dieu suppose une participation. C'est pas la poudre de perlimpinpin, c'est pas magique. Même si de temps en temps, Dieu fait des choses très inattendues. Le fait est que c'est pas la poudre de perlimpinpin. Le truc magique qui vous tombe dessus et tout est simple. On raconte toujours cette histoire, je crois que c'était une histoire vraie. C'est un des fondateurs des assemblées de Pentecôte qui avait raconté ça. Une dame qui, pendant la guerre, avait très faim et elle manquait de nourriture. Et alors, elle prie, elle dit, « Seigneur, envoie-moi à manger. » Quelques minutes après, s'il te plaît, bien sûr. Quelques minutes après, on frappe à sa porte et quelqu'un arrive avec de la soupe bien chaude. Elle regarde la personne, c'était un voisin, elle dit, « Ah non, c'est Dieu qui va m'envoyer ma soupe. » Ok. Alors, est-ce que c'est une blague, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein, Dieu, parfois, agit à sa manière, on n'est pas toujours prêt. Et on aura un témoignage tout à l'heure, d'ailleurs. Mais Dieu nous demande une participation. De même que là, le voisin a participé finalement à la réponse de la prière. Dieu nous demande. Et j'ai pensé à quelques exemples, et je pense particulièrement aux ados ici. Par exemple, Dieu va demander que vous vous prépariez à ce qu'il vous demande, à votre vocation, votre appel. Il y en a qui sentent déjà une vocation très jeune, d'autres c'est plus tard. Mais Dieu demande que vous participiez. Il ne va pas, si vous voulez être médecin par exemple, il ne va pas vous mettre la poudre de perlimpinpin pour dire « voilà, demain vous êtes médecin ». C'est toute une préparation. C'est une des plus longues et des plus pénibles d'ailleurs en France. Il faut se préparer, il faut participer. Ce n'est pas parce que Dieu vous appelle à quelque chose que les choses vont venir comme ça. C'est vrai aussi pour un missionnaire. Dieu vous appelle à le servir dans, je sais pas, aux Philippines ou en Afrique, en Amérique du Sud. Les missionnaires, en principe, ils se préparent. Ils se préparent, ils s'informent sur le pays qu'ils vont servir, etc. Il y a toute une préparation. On n'est pas là, oups, quand j'ai 18 ans, je pars en mission. En général, on se prépare et Dieu s'attend à ce qu'on se prépare. J'ai pensé à tous les leaders dans les mouvements chrétiens ou dans la société. Un leader, il se prépare. Alors vous allez me dire, il se prépare en étant leader. Eh bien non, justement. Un leader, il se prépare en servant. Vous savez, les meilleurs leaders, c'est ceux qui ont bien servi avant. Et je pense à tous ces, même des hommes politiques, j'aime bien lire un peu ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse. Et ceux qui sont le mieux possible dans le monde politique, c'est souvent ceux qui ont servi avant, qui ont été en contact avec la vie, les difficultés de la vie. Alors, je ne sais pas si... Nous, on n'a pas la télé, donc on ne connaissait pas, mais pendant les vacances, on a regardé. Alors, je crois que c'est Boss Undercover. Je ne sais pas si quelqu'un a vu cette émission. Le principe est qu'un chef d'entreprise... Oui, ça doit être sur Arte, oui. Le principe, c'est qu'un chef d'entreprise va se déguiser et faire un petit peu tous les stades... De la chaîne, de son usine, par exemple, etc. Et alors, c'est extrêmement drôle. Mais j'ai trouvé l'idée intéressante parce qu'à la fin, le patron reçoit les gens qui lui ont montré le métier. Oui, il se déguise. Donc, souvent, les gens ne l'ont pas reconnu. Donc, ils sont un peu confus quand ils pensent qu'il l'avait traité, il l'avait appelé Gégé ou je ne sais quoi. Et il dit à la fin, en général, j'aurais jamais pensé que c'était si dur. Qu'est-ce que j'ai eu mal dans le dos à la chaîne ? C'est fini, ces chaînes-là, on va les surélever. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et ça m'a énormément plu. Parce que qu'est-ce qui fait l'étoffe d'un bon leader ? C'est d'avoir servi. Et ils disent tous, mais qu'est-ce que j'ai appris comme chose ? Comme je comprends mieux les gens qui travaillent ici. Et je crois que c'est vrai, là je m'adresse évidemment aux jeunes qui se préparent. Oui, c'était le patron de Léonidas, en fait. Ils avaient bien caché le... Mais je connaissais le petit logo et je l'ai entrevu plusieurs fois. C'est intéressant d'ailleurs. Quand il mettait les chocolats dans les boîtes et qu'il était horriblement maladroit et qu'il ne savait pas faire un paquet, c'était absolument génial. Et voilà. Donc pour vous, les jeunes qui vous préparez, peut-être un métier, une vocation, etc., même si vous êtes haut placé, vous avez un super poste, dites-vous bien que c'est en apprenant à la base que vous allez être des bons leaders. Donc ne crachez pas sur le fait de dire « Oh, j'ai un boulot de vacances, c'est nul. » Non, vous allez apprendre des choses. Et je peux même vous dire des secrets. Je ne sais pas si Samuel va me faire les gros yeux, mais Samuel, avant d'avoir ce poste magnifique qu'il a, il a fait des brioches. Il déversait des gros bacs de beurre, ça l'écœurait, dans des grosses, grosses machines là, pour faire des brioches quelque part dans la campagne. Oui, il a fait du placoplâtre pendant un mois. C'est très bien. Mais vous savez, ça permet de savoir la vie de tout le monde et de comprendre mieux les choses. André, eh bien, il a démonté une usine chimique pendant 2 mois. Et pour faire des économies, il campait pour ne pas payer de logement. Démonter une usine chimique, ce n'était pas très drôle. C'est combien d'heures par jour? 70 heures par semaine. Bon, c'était bien payé, c'est chouette. Voilà. Donc, c'est des choses qui nous préparent. Et vous savez... Je suis dans les anecdotes, là, mais mon père était typographe, donc vous savez, c'est autrefois, c'est un métier qui n'existe plus, mais il disposait les titres et les textes dans le journal Paris-Normandie, etc. Il travaillait la nuit. Et puis, il aimait beaucoup plaisanter, je suppose que j'ai toujours beaucoup ri avec mon père. Et chaque fois qu'il y avait un nouvel ingénieur qui arrivait dans la maison, ils étaient coquins, ils enlevaient une pièce à une machine. Et puis, ils venaient le chercher en disant « Oh, monsieur, monsieur, ça ne marche plus !» Alors ça marchait à chaque fois, parce qu'ils avaient des polytechniciens, des gars des mines, tout ça, t'es perdu. Manque de chance. Ils sont tombés une fois sur quelqu'un qui avait fait la même école qu'André, les arts et métiers. Et là, le gars les a regardés, il a regardé la machine, puis il les a enguirlandés. Vous fichez de qui, là? Ils n'ont jamais recommencé. Mais après, mon père disait, quand il a su qu'André avait fait les arts et métiers, il m'a dit, oh, c'est très bien. Mais oui, parce que tout ça pour vous dire les petites choses de la vie, le service, les choses peut-être qui ne sont pas très glorieuses comme ça, ça vous prépare à être un bon leader. André me disait toujours que le meilleur directeur de l'aérospatial à Cannes, c'était celui qui connaissait toutes les machines et tous les postes. Et quand il y avait des nouveaux ouvriers qui ne savaient pas faire quelque chose, il prenait le truc des mains, il le mettait sous la machine, il disait « c'est comme ça qu'il faut faire ». Les syndicats ne bougeaient pas. Donc, faites des boulots de vacances qui peuvent vous former, qui peuvent vous aider. Cherchez des trucs qui vont vous apprendre des choses. Sur le coup, vous allez peut-être dire « Oh, c'est nul ». Non, non, c'est pas nul du tout. C'est pas nul parce que vous allez apprendre des tas de choses. Et vous allez prendre conscience, même si plus tard vous avez un super métier, vous allez apprendre ce que c'est que la vie difficile, peut-être aussi, de certains ouvriers, etc. Et c'est une bonne préparation. Donc, ne crachez pas sur la préparation. Alors, le fait de participer à ce que Dieu nous demande, j'y pense aussi quand on cherche, par exemple, un travail. On cherche un logement, une nouvelle voiture, un meilleur salaire. Ben, on s'informe, on cherche, on regarde les petites annonces. Moi, j'ai connu des gens, dès que j'ai prié, j'attends. Non. Non, non. Ce qui n'empêche pas Dieu, attention, et c'est ça qui est compliqué parfois. Ce qui n'empêche pas Dieu parfois de faire des choses impensables. On l'a vécu dans cette église, quand André avait fait son dossier, comme il sait les faire, un magnifique dossier relié, tout. Pour la banque, le lendemain matin. Donc il avait rendez-vous à 9h, je crois, avec la banque, pour avoir l'argent pour acheter ce bâtiment. Et à 7h du soir, le téléphone sonne. Il y en a qui connaissent l'histoire, bien sûr, mais il y en a qui ne la connaissent pas. Et c'est des gens qui appellent en disant « on veut voir André tout de suite ». Je dis « il n'est pas encore rentré du travail ». Qu'est-ce qu'il y a encore ?» On s'imagine toujours le pire. Et puis en fait, ces gens avaient hérité de 2 vases extrêmement précieux. Et ils en gardaient un pour eux. Et ils vendaient les 2 aux enchères à Drouot, à Paris. Et un pour eux et un pour l'église. Et le prix de ce vase... C'est un japonais, je crois, qui a acheté. Le prix de ce vase a couvert l'achat plus la première année de travaux. Vous voyez, Dieu, parfois, on n'aurait pas bougé, effectivement, c'était pareil, c'était une action miraculeuse. Le dossier était fait, mais bon, il n'a pas servi. Voilà, et je pense que c'est vrai, ça n'empêche pas Dieu, vous voyez. Il ne faut pas être superstitieux. De croire que, ouais, si je participe, si je cherche, je fais par moi-même, à la force du poignet, et Dieu ne va pas être content. Non, 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 participez toujours. De toute façon, quand Dieu a décidé, il s'en fiche de votre dossier. Mais vous avez bien travaillé, c'est bien. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas. C'est ça qui est un petit peu compliqué dans la vie chrétienne. Dieu va parfois vous surprendre. Mais en gros, la base, je fais ce que je peux faire. Fais ce que tu peux faire et le Seigneur fera le reste. Hein, ça, c'est clair. Mais on participe. Je pense aussi, toujours pour les jeunes, là, je ne vous oublie pas, je vais vous embêter jusqu'au bout. Les grands défis aussi pour vous, à partir de, je ne sais pas, même plus petit d'ailleurs, quelquefois, c'est chercher des bons amis. On se dit, ah, on voudrait l'ami idéal. Ami, relation et plus, quand on grandit. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ? Oh, je prie et Dieu va m'envoyer le meilleur ami du monde ou la meilleure amie du monde. Oui, sûr. Mais parallèlement, si vous voulez vraiment des bons amis, il faut se préparer aussi. Et se préparer comment ? À être soi-même un ami fiable. À être soi-même un ami fiable. Et moi, ce que je vous conseille, les jeunes, faites la liste des qualités que vous aimeriez chez un ami. Je pense qu'il va y en avoir. Hein. Quand c'est pour les autres, les listes sont longues. Faites la liste des qualités que vous aimeriez voir chez un ami. Et puis, commencez à demander à Dieu de manifester ses qualités dans votre vie. Alors, ça peut être l'écoute, le respect de la liberté de l'autre, le service, la prière, l'encouragement, toutes ces choses. Oups. Mais faites ces choses et soyez vous-même le meilleur ami possible et vous verrez que Dieu vous enverra les bonnes personnes. Mais commencez par vous, c'est une bonne idée de dire voilà, moi j'aimerais qu'un ami soit comme ça, j'aimerais qu'un ami soit très à l'écoute. Eh bien moi maintenant, je vais être à l'écoute. J'aimerais un ami qui respecte ma liberté, qui ne m'impose pas des choses. Eh bien moi, je vais respecter la liberté des autres. Voilà. Donc, tout un programme pour vous les ados ce matin là. Pensez aussi aux choses que vous pouvez corriger et qui vous empêchent peut-être d'avoir des bons amis. Je parle trop, je suis trop exigeant, j'ai trop d'attentes. Voilà. Ou bien alors j'en ai pas assez. Je me fiche de tout, du coup j'ai des amis à la hauteur de ce que j'attends. Donc pensez à tout ça et essayez de voir ce que vous pouvez faire. Participez. Vous ne contentez pas de prier pour que Dieu vous envoie l'ami de vos rêves, comme ça, par miracle. Alors malheureusement, quand on prend comme David une décision hâtive, à cause du découragement, des pensées négatives, on se parle à soi-même et on en fait à sa tête. On participe, mais pas de la bonne manière. Et ça, c'est dommage. Donc, j'ai pensé à un exemple qui arrive souvent dans la vie chrétienne, mais qui peut arriver dans une entreprise, qui peut arriver même dans une famille, c'est on regarde son entourage et on se dit, oh, les chrétiens par exemple, mais ils sont décevants. Ils sont décevants. Imaginez qu'ils ont des défauts, les chrétiens. Ils ne devraient pas. Et puis, ras-le-bol. Finalement, moi, je préfère les gens dans le monde. De toute façon, toutes les religions se valent. Hein. Et je vais choisir tel ou tel autre. C'est un petit peu ce que David a fait. J'en ai marre, je ne supporte plus. Je vais de l'autre côté. Alors, là, je ne parle pas de changer d'église, parce qu'on change de famille. C'est douloureux pour l'église, mais je veux dire, c'est pas, on n'abandonne pas le Seigneur. On choisit une autre famille d'église, ou une autre. Ok, c'est pas, c'est triste pour l'église, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas un crime. Surtout si vous avez prié avant, vous avez fait les choses en connaissance de cause. Mais je parle de quitter le peuple de Dieu. On peut parfois vraiment en avoir marre des églises, des gens aussi imparfaits, des gens aussi difficiles. Un sentiment de ras-le-bol. Parce qu'une famille, ça présente certaines exigences, évidemment. Vous savez, on voudrait tous par moments vivre sur une île déserte. Mais il y a plus de désavantages que d'avantages. Même si j'aimerais bien aussi de temps en temps être sur une île déserte. Mais il y a plus de désavantages. Donc, on est amené dans ces cas-là à faire des compromis. On veut, oh, les chrétiens ras-le-bol, le Seigneur, mais je préfère aller dans le monde. Et du coup, on va faire des compromis. Et les compromis amènent des mensonges. Et on va se retrouver dans la situation de David. Et vous savez ce qui s'est passé avec David, on va le voir la prochaine fois, je crois. C'est que quand il a il a attaqué les tribus, il a été plus féroce que les tribus les Amalécites, entre autres. C'est fou. C'est-à-dire, lui, qui faisait partie du peuple de Dieu, a beaucoup plus mal agi que les Amalécites. Quand ils sont venus brûler Tsiklag, ils ont brûlé la ville, d'accord, les Amalécites, mais ils n'ont pas tué les femmes et les enfants. David a été beaucoup plus cruel, beaucoup plus dur. Et je crois que souvent, et ça vous pouvez le vérifier, quand on quitte le Seigneur, quand on quitte le peuple de Dieu, on descend parfois plus bas que les gens du monde. Et je pense à cet exemple, alors je n'ai plus les dates en tête, mais où, est-ce que c'était les Brigades Rouges ou c'était ces terroristes allemands? La bande Abadère. Voilà. Je crois que 3 sur 4 étaient enfants de pasteurs. Et c'est pas, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, quand on veut vraiment quitter le Seigneur, on veut faire à sa tête. Vous voyez, David, il est allé jusqu'à aller habiter chez les Philistins. Il s'est montré beaucoup plus féroce que les tribus qui faisaient les razzias. Et ces jeunes ont été vraiment des terroristes épouvantables. C'est incroyable. On tombe plus bas que le monde. Ça, je ne savais pas. Karl Marx était un chrétien très engagé. Eh bien, oui. Et ses parents étaient chrétiens. Ouais. Donc, vous voyez, on est quelquefois amené à être plus méchant que les autres. Le but de l'ennemi, là derrière, c'est de vraiment nous dresser contre le peuple de Dieu. Et quand on dit, moi j'en ai marre des chrétiens, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de l'église, j'en ai marre de ça, on marche dans la combine. On marche dans la combine. Et quand on s'associe au monde, comme David s'est associé à Gath, on y trouve, dans un premier temps, une certaine sécurité. Imaginez que c'était peut-être les premières nuits où David a pu dormir tranquille. Il faut y penser à ça. Quand vous êtes poursuivi tout le temps par des ennemis, en chair, en os, avec des armes, etc. Waouh ! Se dire, là, je suis en sécurité. Saül et ses troupes ne vont pas venir m'attaquer cette nuit. Je peux dormir. Vraiment, pas seulement d'un œil. Ça, c'est quand même formidable. Une certaine liberté. Je peux aller où je veux, je n'ai pas tout le temps à me dire ils vont me foncer dessus. Mais malheureusement, on est amené à faire des compromis, laisser croire qu'on est OK avec eux, qu'on est ennemi de la foi, et il y en a avec qui ça marche bien, ennemi de l'Église ou des chrétiens, parce que ça passe mieux dans le monde de dire qu'on n'est pas chrétien. On est amené à faire des compromis, des mensonges, et même faire des choses pires que ce qu'on a rejeté. Et on met en péril, et c'est ce point-là aussi qui me soucie, c'est que quand on quitte le Seigneur, on met en péril sa propre famille. Tsiklag a été brûlée, la ville où David s'est réfugié a été brûlée, les habitants sont partis en esclavage. David, en fait, par son attitude, a attiré sur lui et sur tout son entourage des problèmes énormes. Heureusement, il a prié, Dieu a répondu, il était en la détresse. La Bible dit, hein, dans la détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Mais quand on décide de tout plaquer, il y en a marre, c'est trop dur, on s'expose exactement comme l'animal qui s'éloigne du troupeau, j'en ai parlé la semaine dernière, et on prend des risques énormes. Donc le problème, c'est pas de pas changer d'église, de pas ci, de pas ça, mais surtout de ne pas quitter le Seigneur, de pas quitter la foi, de pas quitter notre espérance. Parce que ce que j'ai remarqué dans ma longue vie, c'est que quand on quitte le Seigneur, qu'on quitte cette espérance qu'on a, quand on se dit après tout, c'est trop dur d'être chrétien, j'en ai marre, ben souvent on devient pire que ce qu'on était au départ. Et c'est pas... Même si au début ça semble sympa, David au début, je vous dis, il devait être vachement content de pouvoir dormir, tranquille. Au début, il y a des bons côtés. Mais après un certain temps, et puis pour la famille aussi. Pour la famille, c'est un souci. Donc, pensons-y, restons accrochés au Seigneur et encourageons aussi les gens qui sont découragés. Parce qu'il y a des moments où on est découragé, on voudrait aller sur son île déserte. Et voilà, je pense que c'est important d'encourager les autres. Pour terminer le passage de la semaine dernière et avant d'aborder le nouveau texte, René avait un témoignage par rapport au moment de la vie où on est déçu. Où les choses ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent. Comment on prend ça? Parce que finalement, c'est le cas de David. Hein. Ça ne marchait pas du tout comme il espérait. On lui a dit qu'il serait roi et puis le pauvre, il passe son temps à courir. Donc, je vais laisser René donner son témoignage parce que je pense que c'est intéressant. Et ça correspond bien à ce qu'on a dit cette semaine. Voilà, je te laisse. Vas-y. Oui, ok.
Je parle en anglais, comme je suis sûr, je utilise le bon mot. Et en français, de temps en temps, j'ai un peu perdu. So it was my testimony is based on a bad choice or behavior based on a lie.
Donc, son témoignage est basé sur comment parfois on peut se fonder sur un mensonge.
So in 2015,
I
was working for 2 years on a big deal for my company.
Je travaillais sur un très gros contrat pour ma compagnie.
And the company is not so big.
La compagnie n'est pas énorme.
So a deal like that has a big impact for the company and also for me.
Alors un gros contrat comme ça, c'était très important pour ma compagnie et pour moi.
In the end, we lost the deal.
Et malheureusement, à la fin, on a perdu le contrat. Ça n'a pas marché.
At that time, I prayed a lot for God to help me to get the deal.
Et j'avais prié le Seigneur pour que ça marche.
And I got the feeling or the questions in my mind: is this a punishment of God?
Et du coup, il y a des pensées qui sont venues du style: est-ce que c'est une punition que Dieu m'envoie?
Am I not good enough?
Peut-être je suis pas assez bon.
And I asked God, why don't you help me? Why did you let this happen?
Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as pas aidé? Pourquoi t'as laissé ce truc se passer?
And it is exactly in your preaching last week, I understand that this is the whispering of the devil.
Et comme on l'a entendu la semaine dernière, j'ai compris que c'était un peu le diable qui chuchotait ça à mon oreille.
When I look back at what was my driver when I was praying to God.
Et si je regarde un peu en arrière à ce qui me motivait dans la prière.
And in fact, that is to have success.
Je voulais du succès.
And the fear to lose my job or to get a bad image in my company.
Et ce qui me faisait peur, c'était le risque de perdre mon boulot et aussi que je donne une mauvaise image de moi dans mon travail.
And the end of last year.
Et à la fin de l'année dernière.
I came in the same situation with a big customer in the Netherlands.
Je me suis retrouvé dans la même situation avec un gros client en Hollande.
I worked for this client 2.5 years.
J'ai travaillé avec ce client pendant 2 ans et demi.
And a lot of my sisters and brothers here prayed with me together.
Et je sais que plusieurs frères et sœurs ici ont prié avec moi pour ça.
But there was one thing that was different.
Mais je l'ai vécu différemment. Il y a une chose qui était différente.
I was not praying to God only give me the deal.
Je ne demandais pas simplement à Dieu donne-moi de réussir ce contrat.
But I was praying to God to help me to get to this moment and especially to help me after this moment.
Mais j'ai simplement prié que le Seigneur m'aide à vivre cette période un peu difficile et puis aussi qu'il m'aide après.
So I said to God, whatever happens.
Ce qui fait que j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, peu importe ce qui va se passer.
I know you will help, you will use it for the better.
Je sais que tu vas utiliser ça pour le mieux.
At the same time, I was afraid how I would feel when I would lose the job.
Ceci étant, j'avais plutôt peur à l'idée de perdre ce contrat.
And the big surprise came when I lost the deal.
Et la grosse surprise, c'est quand ce contrat n'a pas marché.
Instead of feeling frustrated,
au lieu de me sentir terriblement frustrée,
I felt really peace.
Je me suis vraiment sentie en paix.
Hallelujah.
Hallelujah.
And that is for me a good example of exactly what you explained last week.
Donc c'est un bon exemple de ce qu'on a expliqué la semaine dernière.
And that's why I wanted to share it.
C'est pour ça qu'il voulait le partager avec nous. Non, tu donnes André. Voilà. Ceci étant, Dieu est puissant et Il y a des contrats qui marchent quand on prie. Il n'y a pas de... Autant, je vous dis, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin, autant, il ne faut pas non plus être négatif. Il faut toujours s'attendre à une action de Dieu. Et il y en a une, là, même si ce n'était pas celle qu'on aurait espérée. Mais Dieu agit. Ok, alors maintenant, on va aborder un texte. Oh, yaya.
Juste un petit mot, ce qui me vient à l'esprit, c'est que certainement, le prochain contrat, il va marcher.
Tu sais pourquoi ? Parce qu'il sera en paix.
Parce que John Smeyer le dit, c'est que quand on ne comprend pas, il nous fait marcher dans le désert pendant 40 ans. Et quand on comprend, voilà, parce que le Seigneur veut nous faire comprendre des choses. Voilà, il ne veut pas nous punir, il veut pas nous, voilà, il veut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Voilà, donc je pense que voilà, je reçois ça du Seigneur. Prochain va marcher.
Alors, c'est 1 Samuel 28, j'espère que tout le monde l'a lu avant. On va le lire. Et après, je demanderai qu'on éteigne l'enregistrement parce que je vais faire une lecture de ce texte qui est ni plus ni moins la lecture qu'il ne faut jamais faire. Donc, je ne préfère pas qu'elle soit enregistrée. Mais pour l'instant, je lis le texte. Pas de souci pour ça. Je te signalerai, Rodrigue, quand il faudra éteindre. Donc, Saül consulte la nécromancienne d'Endor. Samuel était mort. Tout Israël s'était lamenté sur lui. On l'avait enseveli à Rama dans sa ville. Saül avait supprimé du pays les spirites et les médiums. C'est une sorte d'introduction importante pour la suite. Les Philistins se rassemblèrent et dressèrent leur camp à Shunem. Saül rassembla tout Israël et ils dressèrent leur camp à Gilboa. Quand Saül vit le camp des Philistins, il eut peur. Rappelez-vous que c'était un général d'armée. Bizarre, hein ? Il eut peur, son cœur trembla beaucoup. Saül interrogea le Seigneur et le Seigneur ne lui répondit pas. C'est pas souvent qu'on voit ça dans la Bible. Ni par les rêves, ni par l'ourim, c'était un moyen que ça vous l'avez dans le dictionnaire biblique pour consulter le Seigneur, on ne sait pas exactement ce que c'est, ni par les prophètes. Saül dit aux gens de sa cour, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Vous pourriez penser qu'ils vont dire oh non, majesté, mais non. Apparemment, ils n'étaient pas terribles à la cour de Saül. À Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa en mettant d'autres vêtements, partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Fais la divination pour moi, je te prie, en évoquant un mort. Fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Mais tu sais bien ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays les spirites et les médiums. Pourquoi veux-tu me tendre un piège et me faire mettre à mort ?» Saül lui fit ce serment par le Seigneur. « Oh, par la vie du Seigneur, aucune faute ne te sera reprochée dans cette affaire. » La femme dit alors, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül !» Le roi lui dit, « Mais n'aie pas peur, que vois-tu ? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle apparence a-t-il ? » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, il est enveloppé d'un manteau. » Saül sut ainsi que c'était Samuel. Il s'inclina face contre terre, prosterné. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est éloigné de moi. » Oui, il a osé. « Il ne m'a répondu ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par les rêves. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses savoir ce que je dois faire. » Samuel dit, « Mais pourquoi m'interroges-tu donc ? Puisque le Seigneur s'est éloigné de toi, qu'il est devenu ton adversaire. » Le Seigneur a agi comme il te l'a dit par mon intermédiaire. Le Seigneur a déchiré la royauté d'entre tes mains. Il l'a donné à un autre, à David, puisque tu n'as pas écouté le Seigneur et que tu n'as pas traité Amalek selon sa colère ardente. Le Seigneur te traite ainsi en ce jour. Avec toi, le Seigneur livrera aussi Israël aux Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et le Seigneur livrera les troupes d'Israël aux Philistins. » Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur. Il avait très peur à cause des paroles de Samuel. De plus, il manquait de force car il n'avait rien mangé de tout le jour, toute la nuit. On va arrêter là, on reprendra après. Après, il va. Donc, la femme va réussir à le faire manger. Donc, on va les lire dans Lévitique 19 parce que c'est important de les connaître. Parce qu'on vit dans une société. Vous savez qu'à Paris, il y a plus de médiums que de médecins. Donc, on vit dans une société qui est de plus en plus intéressée par ces choses-là. Alors, Lévitique 19, 26, vous ne pratiquerez pas la divination. Et vous ne chercherez pas de présage. Vous ne vous ferez pas de tatouage, entre parenthèses, parce que ça avait une signification spirituelle. Je suis le Seigneur. Plus loin, ne vous tournez pas vers les spirites ou vers les médiums. Ne les recherchez pas. vous deviendriez impur à leur contact. Alors impur, pas au sens de plus saint que toi, hein, mais il y a quelque chose qui déteint sur nous. Je suis le Seigneur votre Dieu. Si quelqu'un se tourne vers les spirites ou vers les médiums pour se prostituer avec eux, je me retournerai contre lui, je le retrancherai du sein de son peuple. Vous deviendrez saints. Et saint, ça ne veut pas dire parfait, ça veut dire mis à part et consacré à Dieu. Attention, hein. Vous serez saints car je le suis, le Seigneur votre Dieu, mis à part et consacré. Ésaïe 8, 19. J'aime beaucoup celui-là parce qu'il est ironique. Si l'on vous dit, consultez les spirites et les médiums qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? Ne s'adresseront-on aux morts en faveur des vivants ? Doit-on, ou alors il y a une autre traduction, doit-on s'adresser aux morts pour les vivants ? Donc c'est clair, hein, les textes sont très clairs. Alors ceux de Lévitique, il les connaissait, hein, Saül. Manassé, roi de Juda, écoutez un peu ce qui est dit de lui, 2 Rois 21. Il fit passer son fils par le feu, un roi d'Israël, enfin de Juda. Il cherchait des présages. Attention, lire son horoscope. J'ai écouté une conférence où la dame disait, on est vendredi 13, il y a pas mal de chaises vides, bon, il y avait quand même beaucoup de monde, mais je crains qu'il y ait beaucoup de gens qui ne soient pas venus, parce qu'on est un vendredi 13. Alors si on en est là, dans les milieux chrétiens, ça craint. Il cherchait des présages et pratiquait la divination. Il installa des spirites et des médiums. Il contraria le Seigneur en faisant de plus en plus ce qui lui déplaisait. Alors, vous allez me dire, oh bah oui, bon, ça déplaît à Dieu, mais ça va plus loin. Faites un petit tour dans un asile psychiatrique. Et demandez à un médecin. C'est ce que je disais souvent à mes élèves, parce qu'il y avait pas mal d'enfants de médecins dans l'école. J'ai demandé à vos parents, à votre papa ou à votre maman, combien de gens ont pratiqué des sciences occultes et ont terminé en asile psychiatrique. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on n'est pas fait pour ça. Et si vous mettez votre vaisselle dans votre lave-linge, ou votre linge dans votre lave-vaisselle, il va se passer des trucs. C'est la même chose. On n'est pas fait pour ça. Au sujet de la mort de Saül, 1 Chronique 10, 3. Vous savez, c'est bien parce qu'il y a deux textes dans la Bible qui parlent des rois. Il y a les rois et les chroniques. Et souvent, on peut recouper les textes. Ils ont une perspective complètement différente. On en reparlera une autre fois. Saül mourut à cause des sacrilèges qu'il avait commis envers le Seigneur, parce qu'il n'avait pas observé la parole du Seigneur. Il avait même eu recours au spiritisme. Vous voyez, ça évite une fausse lecture du texte. Parce que franchement, ma lecture, bon, elle a l'air un peu baroque, mais elle aurait pu se faire. Quelqu'un de gentil, qui ne connaît pas du tout la Bible, il aurait pu la lire comme je vous l'ai lu. Et attention à ce genre de lecture. Prions avant de lire la Bible et tenons compte de tout le contexte pour notre vie. Et pour terminer, j'ai d'autres textes, je pourrais vous les redonner. Actes 19, 19. Donc vous voyez, même dans le Nouveau Testament, où on brûlait les livres de magie. Actes 16, 16. La servante qui avait un esprit de divination que Paul a délivré. Et puis les patrons, ils n'étaient pas contents parce qu'elle ne pouvait plus faire de divination, donc il n'y avait plus de rentrée d'argent. Souvent lié à l'argent d'ailleurs. Ésaïe 47, 12 à 15 aussi. Voilà, vous pourrez le relire. Donc je vais m'arrêter là parce qu'on a déjà bien dépassé. C'est un peu lourd comme texte aujourd'hui, mais la semaine prochaine, on va en parler un petit peu plus longuement. C'est pas innocent. C'est pas innocent. Et que la chute de Saül se situe au moment où il va jusqu'à consulter des médiums, ça vous dit le poids que Dieu met là-dessus et la nécessité de rompre avec tout ça. On en reparlera la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà cette semaine, si vous avez consulté des cartomanciennes, des médiums, des horoscopes, des machins, peut-être ce serait bien cette semaine de passer un petit temps avec le Seigneur et de demander pardon. Dieu pardonne, mais c'est quelque chose qui vous salit, c'est quelque chose qui vous fait pas de bien, qui engendre la peur et qui est vraiment néfaste dans notre vie. Donc, quelquefois, c'est simplement à l'école, hein, les copines qui ont lu les lignes de la main ou qui ont avec des cartes, ou etc. Pensez-y et demandez pardon à Dieu. Débarrassez-vous de ça. Et si vous avez du mal à lire la Bible, vous vous apercevrez peut-être que c'est tellement plus simple après. C'est comme s'il y avait... C'est très difficile à expliquer, hein, parce que je ne l'ai pas vécu, mais c'est comme... Des gens qui l'ont vécu pourraient peut-être l'expliquer mieux que moi. C'est comme un voile qui se déchire. C'est comme quand on est délivré de ça, c'est une vie nouvelle qui commence. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous.
Reste juste là. Oui. Non, juste pour confirmer ce que je vais dire, parce que c'est un témoignage, mais tu l'as vécu aussi et d'autres l'ont vécu ici. C'est que dans les périodes où on était en combat spirituel direct avec l'ennemi qui voulait détruire l'Église, il y a Ricardo qui nous a beaucoup aidés. Il a dit, tiens, j'ai un ami là, j'ai un ami super, et il est ouvert au Seigneur. Enfin voilà, il me le décrivait comme quelqu'un, il faut vraiment évangéliser, quoi. Bon, super. Donc on l'a invité chez nous. Mais j'ai jamais eu dans toute notre vie une puanteur spirituelle. On a dû immédiatement, dès qu'il a quitté, nettoyer toute la maison, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui était dans le dernier créneau de la franc-maçonnerie russe, qui s'appelle l'Ordre Saint-André. Donc il était à ce niveau-là. Et effectivement, il était ouvert, on pouvait discuter de lui, mais tout était tordu. Tout était tordu. Il nous parlait des trucs de Moïse et machin. Et on sentait que c'était faux, mais il fallait vraiment voir l'erreur. Hein. C'était pas évident. Au niveau historique, il tordait les choses. Bon, donc on l'a reçu chez nous, quoi, la maison. Et puis il est venu dans l'église ici, bon, c'est super. Et puis un jour j'ai fait un appel, je sais plus quoi, pour prier. Et il est venu, et au moment où je lui ai imposé les mains, paf, il était tombé par terre. Mais comme ça, j'étais surpris, quoi. Hein. Il était carrément projeté, quoi, etc. On pourrait dire c'est l'onction. C'est l'onction, c'est formidable. Alors, j'aurais envie de dire, ah, j'ai une onction. On sait ce que c'était derrière. Vous voyez, donc faites attention. Les gens sont projetés, sont voilà. C'était pas du tout l'onction. Hein. C'était diabolique au possible.
Ceci étant, c'est pas parce qu'il y a du faux qu'il faut renier le vrai. Hein. Juste préciser ça. Mais il faut être prudent. La Bible dit soyez prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Donc voilà.
C'est une expérience, c'est important que vous le sachiez, que dans des moments de combat, toutes les choses sont mélangées et ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est l'obéissance au Seigneur. Amen.